Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
Vous êtes notre chroniqueur spécialiste du patrimoine, historien, et vous êtes président de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Alors, c'est la semaine où nous ne tarissons pas d'éloges pour Radio Présence. Voilà, osons le dire, parce que c'est la semaine du Radiodon où on demande à chacun et à chacune d'entre vous de donner ce qu'il faut pour que cette radio puisse continuer à vivre et à se développer. Vous, Thibaud de Rouvray, vous vous sentez bien sur cette radio, dites-nous.
Oui, c'est vrai que maintenant, je pense que c'est la troisième année que nous avons l'occasion d'échanger sur le patrimoine. Donc voilà, je pense que je reviens toujours avec plaisir pour ces enregistrements.
Et vous avez des retours? Qu'est-ce que vous auriez d'ailleurs à nous dire là-dessus? Parce que c'est important quand on est chroniqueur d'avoir cette réponse à la question « Est-ce que ça passe? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça convient? Ça rejoint un public ?»
Oui, alors c'est vrai que traditionnellement, on s'exprime plutôt en tant qu'historien lors de conférences ou lors de rencontres à l'extérieur. Et voilà, le fait de s'exprimer à travers les ondes, c'est un autre média aussi. Ça peut toucher d'autres personnes. Et j'ai, oui, assez souvent des personnes qui me disent « Ah, je vous ai entendu. » Alors parfois par hasard, en réglant un peu des stations, ils sont tombés sur une émission. Et du coup, ça a marqué la curiosité. Et assez souvent, effectivement, il y a des échanges, même des personnes qui deviennent fidèles à cette chronique et à d'autres.
Donc vous encouragez nos auditeurs à donner, à vous faire un don, spécialement cette semaine.
Voilà, c'est pour que les émissions puissent continuer et ce média aussi puisse diffuser cette vision du patrimoine à l'échelle de la région.
Merci pour tout ce que vous venez de dire, Thibaud de Rouvray, sur la radio. On va maintenant vous interroger sur ce pourquoi vous êtes venu, c'est-à-dire nous éclairer sur le patrimoine. Bienvenue dans cette émission, enfin vous devriez me dire bienvenue plutôt, puisque nous allons initier ensemble, j'espère, une longue collaboration pour essayer d'aider nos auditeurs et tout un chacun à porter un regard un peu plus averti sur notre patrimoine. Il se trouve que vous êtes historien, vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire religieuse et du patrimoine religieux. Ça tombe bien, parce que c'est un patrimoine qui nous intéresse. Comme tout le patrimoine. Vous êtes président de la Société académique des Hautes-Pyrénées.
Oui.
Voilà, j'espère qu'on a presque tout dit pour les titres et les responsabilités et les compétences. Et cette semaine, cette fois-ci, vous nous aidez à regarder un peu différemment nos cathédrales, les cathédrales de notre région. D'abord, sur le mot cathédrale, d'où vient-il ?
Oui, alors peut-être un petit peu de vocabulaire. C'est vrai que le terme lui-même, il est lié à un meuble, à une cathèdre, alors qui est un mot en fait qui désigne une sorte de trône, de siège dans lequel l'évêque va s'installer. Donc c'est un emblème du pouvoir épiscopal également.
Donc à chaque fois qu'il y a un diocèse, il y a une cathédrale.
Tout à fait, voilà. Et certaines vont même parfois avoir le statut de siège d'archevêché et avoir la terminologie de cathédrale métropolitaine. On en a vu plusieurs exemples sous l'Ancien Régime, notamment Auch, Albi, et de nos jours, c'est Toulouse qui a la primauté.
Donc il y a aujourd'hui une seule cathédrale métropolitaine, c'est celle de Toulouse.
Voilà.
Il y a pourtant des archevêques ailleurs dans la région, on l'a compris. Parlez-nous un peu, justement, avant d'entrer dans cette cathédrale, dans ces cathédrales de la région, de ces diocèses, comment ils ont évolué du point de vue de leur périmètre, de leur nombre aussi.
Oui, alors ces diocèses, certains ont une grande histoire très ancienne et remontent au début du christianisme dans la région, donc à la fin de l'Antiquité, au début des temps chrétiens, donc peut-être 5e, 6e siècle. Donc il faut imaginer des diocèses comme Toulouse, comme Rodez, comme Auch, qui sont très anciens, avec à cette époque-là une cathédrale et plusieurs bâtiments autour qui forment un véritable quartier. Et puis peu à peu, ce découpage il va évoluer au cours du Moyen-Âge.
Alors, comment il évolue ce découpage? Parce qu'on multiplie ou on diminue le nombre de diocèses?
Alors, c'est vrai qu'on se retrouve au début du XIVe avec des diocèses qui sont parfois très étendus, notamment celui de Toulouse ou de Cahors. Et le pape d'alors, qui est un pape d'Avignon, Jean XXII, qui est originaire aussi du sud-ouest, va créer un certain nombre de diocèses. Il va découper ces grandes entités et il va souvent confier la gestion de ces nouveaux diocèses à des familiers de son pontificat.
On peut en citer un certain nombre de ces nouveaux diocèses qui datent, vous l'avez dit, du début du XIVe siècle, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait. Oui, alors des villes qui d'ailleurs n'ont pas souvent gardé ce statut épiscopal, mais on peut citer Castres, Condom, Lavaur, Rieux-Volvestre aussi, Vabre, et un diocèse qui est resté, celui de Montauban.
Voilà, ces diocèses-là datent du XIVe siècle.
Oui.
Arrive la Révolution. Là, franchement, on franchit à grands pas les siècles, mais bon, la Révolution, qu'est-ce que cela conduit ? Il y a la Révolution, puis après, il y aura le Concordat, bien sûr. Cela conduit à quoi, en termes de découpage des diocèses ?
Alors à l'époque de la Révolution, peu à peu le culte va être supprimé, donc il n'y a plus de découpage religieux, si on peut dire. Il faut attendre le concordat entre le pape et Napoléon pour recréer des diocèses au tout début du XIXe siècle, et avec des différences. Par exemple, en 1801, le diocèse de Tarbes n'existe plus, il est rattaché à Bayonne. Il faut attendre une vingtaine d'années pour voir à nouveau un évêque siéger à Tarbes.
Ce découpage que nous connaissons aujourd'hui, de quand date-t-il, en fait ?
Alors ce découpage, en fait, qui arrive à maintenir un diocèse, en gros, par département, un évêché par département, il date du XIXe siècle, voilà, de ce redécoupage de la première moitié du XIXe siècle.
Donc c'est celui que nous connaissons aujourd'hui, donc en gros, un diocèse, un département, et donc une cathédrale, à chaque fois.
Voilà.
Ces cathédrales, on a envie de les visiter avec vous. Est-ce qu'il y a, si on balaye quand même l'histoire, on va dire patrimoniale, en regardant à peu près comment se situe chacune dans l'histoire architecturale, on pourrait dire quoi s'agissant de nos cathédrales ?
Alors qu'il y en a eu à toutes les époques, même dès l'époque paléochrétienne. Alors il n'y en a plus de vestiges visibles, hein. On peut en retrouver quelques éléments en fouille, mais il faut imaginer au premier temps du christianisme souvent des édifices qui se sont installés parfois dans des ruines de bâtiments antiques comme à Tarbes ou à Rhodes, et des groupes cathédrales, c'est-à-dire qu'il y a une église principale mais plusieurs églises annexes, et il peut y avoir aussi un baptistère qui est séparé, comme on le voit encore en Italie, donc des choses qui ont beaucoup évolué depuis.
Et s'agissant de l'histoire architecturale, là, éclairez-nous, parce qu'on entend parfois parler de gothique, de roman, des gothiques divers et variés d'ailleurs. Ça commence par quoi ? Par le style roman, il me semble, c'est le plus ancien.
Oui, voilà. En gros, le milieu du Moyen-Âge, donc le 11e, 12e, 13e siècle encore dans la région, on va parler d'art roman, donc avec des arcs en plein cintre, des murs assez massifs, des fenêtres qui sont parfois assez étroites, des contreforts importants, avec quelques exemples qui sont restés. Alors l'ancienne cathédrale de Saint-Lizier, alors celle de Lescar aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, celle de Cahors avec un style particulier de fil de coupole, sont des cathédrales quasi intégralement d'époque romane. Et certaines ont gardé des éléments, notamment Saint-Bertrand de Comminges, Augoron-Sainte-Marie ou Tarbes ont soit le chevet, soit le porche qui sont de cette époque-là.
Donc si on veut voir du style roman, s'agissant de nos cathédrales, c'est Saint-Lizier, Lescar, Cahors, vous avez dit une partie seulement de Saint-Bertrand de Comminges.
Oui.
À Toulouse, une partie. On va voir qu'à Toulouse, on a tout. Mais Oloron et Tarbes.
Voilà.
Ce sont des cathédrales qui sont, on va dire, musclées du point de vue architectural, hein. C'est épais, c'est sombre également.
C'est assez sombre, effectivement, des nefs assez larges, des fenêtres étroites, des gros contreforts, donc voilà, quelque chose qui est assez, qui peut paraître assez austère, en effet.
Ensuite, on passe au gothique. Alors là aussi, le gothique, sans doute, a-t-il des beaux exemples dans notre région ? Vous allez nous en parler.
Oui, alors le gothique, on peut dire qu'il arrive dans la région à partir du XIIIe, XIVe siècle. On a longtemps été fidèle au modèle roman, mais peu à peu, voilà, on évolue. On a pu parler, on l'utilise moins, mais on a pu utiliser l'adjectif de gothique méridional pour parler de certaines églises. Si on visualise la nef de Saint-Étienne de Toulouse, quand on rentre par le grand portail, ou aussi la cathédrale d'Albi, voilà, c'est caractérisé, ce gothique dit méridional, par ces grandes nefs très larges et puis de petites chapelles qui sont engagées entre les contreforts.
Donc jusque-là, vous nous avez dit que Toulouse, il y avait du roman, du style roman. Il y a également du style gothique méridional à Saint-Étienne de Toulouse.
Tout à fait.
Comme à Albi. Et il y a un autre genre de gothique dans notre région qui pourrait se retrouver dans telle ou telle cathédrale ?
Oui, alors c'est vrai qu'il faut imaginer à l'époque, il y a peu de communication entre la France du Nord, on dirait, et la France du Midi. Après, il y a des événements politiques aussi qui vont amener un certain brassage. Et puis, on va adopter peu à peu un gothique qu'on pourrait qualifier de français pour reconstruire ces édifices à partir du XIIIe, XIVe siècle. Donc vraiment, c'est le gothique que l'on imagine avec la... Pour le coup, des voûtes très élevées, des murs très fins, beaucoup de verrières, des vitraux, de la lumière et des arcs boutants. On en a de belles illustrations. Mais là aussi, à Toulouse, dans la deuxième partie de la cathédrale, à Rhodes, à Auch, qui sont entièrement de cette époque.
Bon, alors arrêtons-nous là encore quelques instants. Si je comprends bien, en se rendant à Saint-Étienne de Toulouse, on peut voir tous ces siècles défiler sous nos yeux.
Oui, voilà, avec un peu de roman au niveau de la façade principale, une première nef qui est gothique méridionale, et puis un petit peu décalée. C'est vrai qu'on est perturbé quand on rentre à Toulouse la première fois, c'est que les deux nefs ne sont pas dans le même axe.
Bon. Et y a-t-il encore un autre style qu'il faudrait mettre en exergue pour comprendre comment sont construites nos cathédrales?
Alors voilà, dans la région, il y a un autre style qui s'est exprimé, c'est le style classique, on pourrait parler de style de l'époque de Louis XIV. Alors pour des édifices qui ont été reconstruits, là, suite aux guerres de religion, notamment la cathédrale de Pamiers, et puis celle de Montauban, qui est entièrement réédifiée par volonté royale sur le point le plus haut de la ville.
Donc du style classique, Montauban et Pamiers.
Voilà.
Voilà, tout est dit. Du gothique, du roman, du classique. Allez-y, rendez-vous dans nos cathédrales et vous y découvrirez forcément de très très belles choses, de belles architectures au service, bien sûr, de la prière et de la démarche spirituelle. Merci Thibaud de Rouvray.
Merci
On se dit
Baptiste.
à très bientôt. Au
À
revoir.
bientôt.